Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Isolde Sicard, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'actualité écho décryptée par des acteurs et des chercheurs, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, l'Europe réussira-t-elle à faire plier Google sur la question des données personnelles ? La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a infligé cette semaine une amende record de 50 millions d'euros au géant américain du numérique. Google est accusé de n'avoir pas respecté le règlement général sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD, entré en vigueur en mai dernier. Alors les États ont-ils désormais les moyens d'imposer leur volonté aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ? Et nos données seront-elles vraiment mieux protégées, alors même qu'elles constituent le modèle économique des géants de la tech ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Nicolas Bouzou nous plongera dans la grande évasion du prix Nobel de l'économie Angus Deaton. Trois invités autour de la table pour parler de ce bras de fer entre les GAFAM et les autorités européennes de régulation. Bonjour Anne Belon.
Bonjour.
Vous êtes politiste et spécialiste des politiques numériques et de la régulation de l'Internet. À vos côtés, Mathias Moulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la protection des droits et des sanctions à la CNIL. Et enfin, Arthur Messot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste au sein de l'association La Quadrature du Net, qui est à l'origine de 5 plaintes contre Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. On va en parler. Google et Facebook qui ont décliné nos invitations aujourd'hui, je le précise. Mais d'abord, je voudrais commencer avec vous, Mathias Moulin. Qu'est-ce que la CNIL reproche aujourd'hui à Google ? Et comment le montant de l'amende, donc 50 millions d'euros, je le rappelle, a-t-il été décidé ?
Alors, principalement trois manquements. Un manquement à la transparence, un manquement à l'information et un manquement à la validité du recueil du consentement pour la personnalisation de la publicité. Donc la question de l'accessibilité de l'information, notamment puisqu'on a des informations essentielles sur les finalités du traitement qui sont disséminées dans différents documents. Parfois, il vous faut jusqu'à 5 ou 6 clics pour comprendre comment on va utiliser les données à des fins de personnalisation de la publicité ou comment vous allez être géolocalisé. Ensuite, il manque des informations aussi sur la durée de conservation des données, des données qui sont en plus conservées pour des longues durées. On vous donne juste une finalité, mais on vous donne pas les moyens par des critères de comprendre combien de temps elles sont conservées, ou alors on n'exprime pas en mois ou en année cette durée de conservation. Et enfin, pour ce qui est du recueil du consentement à la personnalisation de la publicité, vous avez des cases qui sont précochées, vous n'avez pas de granularité dans les choix qui vous sont proposés, vous acceptez en bloc les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité. Donc voilà, ce sont ces trois manquements qui ont été retenus.
Cette question du libre consentement, elle est centrale, on va y revenir. Mais d'abord, c'est une décision qui fait suite aux plaintes collectives qui ont été déposées par deux associations de défense des droits des internautes, la Quadrature du Net et None of Your Business. Quel regard posez-vous aujourd'hui sur cette décision, Arthur Messot, vous qui êtes juriste au sein de la Quadrature du Net ?
En mai dernier, on a attaqué Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft avec 12 000 personnes. Là, c'est la première décision qu'on a contre Google. Donc, d'abord, on attend d'autres décisions parce que cette décision n'est pas complète sur plusieurs points. D'abord, le montant de la sanction, 50 millions. On peut dire que c'est une amende record en matière de données personnelles, certes, mais contre Google, c'est pas du tout record. En matière de concurrence, Google a été sanctionné à 4 milliards déjà. Et là, la CNIL aurait pu rendre une sanction de 4 milliards. C'était un des nouveaux pouvoirs du RGPD. Et justement, avant, la loi limitait fortement le montant des sanctions, c'était 150 000 euros, c'était ridicule. Et là, enfin, on a une loi qui permet de vraiment sanctionner ces acteurs, et la CNIL ne se saisit pas pleinement du tout de cette mesure. Ensuite, la CNIL, on pourrait dire, a rendu une décision symbolique. D'accord, c'est pas 50 millions qui va freiner Google, mais au moins les gens savent que ce qu'il fait est illicite. Et là encore, en fait, la CNIL a commencé, c'est intéressant, mais ça a arrêté en plein milieu du chemin, parce que elle aurait pu d'abord exiger que Google dise à tous ses clients, à tous ses utilisateurs, qu'il a été sanctionné, que ce qu'il fait est illicite. Il y avait une injonction de publicité qui était possible, la CNIL n'a rien dit. Pareil, la CNIL aurait pu exiger que toutes les données collectées en violation de la loi soient supprimées. La CNIL n'a rien dit. Symboliquement, ça aurait été fort. Là, on a juste une sanction qui dit « vous devez payer ». Éventuellement, si vous recommencez, peut-être que vous devrez repayer. Et une somme qui, pour Google, représente juste 4 heures de son chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment très, très faible. Alors qu'on avait les moyens de faire énormément.
Une sanction quand même beaucoup plus importante que ce qui était possible auparavant. C'est en tout cas quand même la première fois qu'un géant de l'Internet est épinglé dans le cadre du RGPD, donc ce règlement européen sur la protection des données. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Anne Belon, dans quel contexte ce règlement européen a été mis en place et quel était son objectif ?
Alors le RGPD, c'est une adaptation de la directive sur les données personnelles de 1995, donc qui a commencé à être discutée en 2012. Et à ce moment-là, on était peut-être un peu mal parti pour les données personnelles en Europe. Il y avait un lobbying intense de la part des GAFAM qui a été renseigné par de nombreuses associations de défense des droits. Et puis, il ne vous aura pas échappé qu'en 2013 se passe l'affaire Snowden, qui, je pense, a un petit peu changé le rapport de force et aussi les enjeux sur la discussion politique, qui est la discussion administrative même, qui précède à l'adoption de ce RGPD. Et finalement, il y a des avancées qui ont été apportées dans ce texte, qui reste à l'échelle mondiale quelque chose de très important aussi, parce qu'il permet d'harmoniser la réglementation des données personnelles entre les pays européens. Avec, parmi les principales avancées, l'entrée de la notion de consentement explicite, qui était une demande des associations de protection des droits. Et donc, le règlement définitivement adopté en mai 2016 est mis en place à partir de mai 2018.
Je cite vraiment sur ce que vient de dire
Arthur Messot.
À l'époque du RGPD où c'était négocié au Parlement européen, donc nous on était là constamment, et on était terrorisés parce que c'était la plus grande campagne de lobbying que les parlementaires n'avaient jamais vue. Facebook, Google, le gouvernement américain, tout le monde était là tout le temps, et Snowden arrive, révèle ça, change entièrement le débat, et tout d'un coup, notre demande principale qui était le consentement explicite, donc ce qui a été reproché de ne pas faire à Google cette semaine, là, grâce à Snowden, en fait, on a eu ça dans la loi, et un texte qui est un des meilleurs textes, si ce n'est le seul bon texte européen.
Justement, on ne peut pas être consentement explicite, mais alors jusqu'à quel point est-ce qu'il est bien mis en place aujourd'hui, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, Mathias Moulin ?
Alors, je voudrais juste revenir quand même sur le calcul de la sanction, parce que nous, on fait du droit, on est saisi de faits, on analyse ces faits, on en tire des manquements, et ensuite, on va calculer l'amende ou la mesure correctrice à prendre sur la base de critères, des critères qui sont définis par le règlement, donc la durée du manquement, la nature des manquements, les personnes qui sont concernées, la sensibilité des informations et ainsi de suite. Donc on doit objectiver tout ce qu'on dit, on est comptable de ce qu'on dit, il y a un débat contradictoire, il y a le respect des droits de la défense et ensuite il y a le risque contentieux aussi. Donc la décision qu'on a prise, elle est étayée par ces arguments et par le respect du texte et on en est comptable, et ça vous a pas échappé d'ailleurs, Google a indiqué qu'il allait faire un recours contentieux. Donc il faut qu'on justifie tout ça. Donc les 4% sont un plafond. On n'est pas dans un système de contravention. Vous avez grillé un feu, on vous met une amende, on met une contravention de 1 500 €. Non, là, on est sur un plafond et qu'il faut justifier, il faut calculer avec des critères objectifs.
Regardez donc le symbole de la sanction.
Mais juste pour finir là-dessus, c'est ce qu'on a fait. Alors, on a rendu une décision qui est robuste, sérieuse, étayée. Et on est une fonction de régulateur. Alors, on peut dire ensuite, les manquements, donc c'est Google, c'est très grave, c'est de la publicité, combinaison. Oui, mais ensuite, il faut justifier, il faut étayer et il faut défendre cette position devant le contentieux. Et c'est notre responsabilité.
Est-ce qu'il faut expliquer que c'est sur le système Android que vous vous êtes en particulier concentré ? Il y a d'autres plaintes sur lesquelles il y a des décisions ultérieures qui vont être rendues.
Alors ça, en fait, c'est juste la porte d'entrée du contrôle Android. Puisque on a vu, on a utilisé un système Android, on a fait le parcours d'un utilisateur, et ensuite on a analysé les politiques de confidentialité et des conditions générales d'utilisation, qui elles sont communes aux différents services. Donc c'est sans incidence, c'est-à-dire le fait qu'on soit passé par Android, c'est parce que la plainte de Max Schrems de l'autre association avait cette porte d'entrée, c'est nous, on a essayé de faire la synthèse entre ces deux plaintes, parce que elles étaient, la plainte de la quadrature, par exemple, c'est 23 pages. Donc, il faut analyser, faire la synthèse, ensuite confronter ça au texte. Donc, c'est un travail de longue haleine, et c'est aussi, à un moment donné, il faut qu'on ait,
Ça vous coûtait rien de rajouter Gmail, YouTube et Google Search dans la décision. Là, on a juste Android de marquer, c'est franchement décevant. C'était une ligne à faire en plus
Mais Android n'est cité que en tant que porte d'entrée, processus du contrôle. Derrière,
autant mettre les autres portes d'entrée à ce moment-là. Bon, symboliquement,
mais je pense que vous n'avez pas compris la décision. Parce que ce qu'on traite, c'est bien la politique de confidentialité de Google qui est commune à tous les services. Donc, on parle bien de celle-là.
Par exemple, il y a un point que vous ne traitez pas, qui n'est pas traité dans la décision, c'est que Google explique que sur Gmail, il analyse les mails, avec qui vous parlez, quand, etc., pour faire des profils sur vous. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a été abordée dans la CNIL, dans sa décision, et s'intéresse juste à une case qui est précochée et qui concerne l'affichage de la publicité ciblée. Cette case, vous pouvez la cocher ou la décocher, ça ne changera rien au fait que vous êtes surveillé sur Gmail. Ça, c'était dans le cœur de notre plainte, et la CNIL, encore une fois, n'a rien dit sur ça.
Il y avait plusieurs aspects dans votre plainte. Il y avait la question de l'information, la question de la transparence, la question du consentement. Nous, on a un séquençage dans l'instruction. On est quand même, si on prend le temps que la chronologie, c'est des plaintes qui sont arrivées le 28 mai, et vous avez quand même une décision qui intervient un peu moins d'un an sur des principes essentiels du RGPD. Donc on est sur une impulsion. On a un phasage de l'instruction et on a quand même traité, je pense, en grande partie ce dont vous nous parliez.
Et je voudrais qu'on revienne sur la mise en pratique. Du consentement, en l'occurrence, la question qui se pose, c'est en effet, est-ce que les internautes donnent librement leur consentement à l'utilisation de leurs données personnelles à des fins commerciales, et est-ce que on est face à une situation où, comme les conditions générales d'utilisation, finalement, on accepte les cookies, mais finalement sans savoir véritablement ce qu'on accepte, Mathias Moulin.
Alors, le consentement, il doit être libre, éclairé, spécifique et univoque, donc pas ambigu. Donc on a pris les faits dont on était saisi, on a fait le parcours d'utilisateur, d'où une porte d'entrée et ensuite l'analyse des documents et les différents systèmes de paramétrage. Et là, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, ce consentement, il est pas suffisamment éclairé, il est pas spécifique parce que vous avez un consentement en bloc, et ensuite, il est pas univoque, c'est-à-dire qu'il est ambigu parce que les cases sont préclenchées et vous êtes pas sur un acte positif de la personne. Concrètement, techniquement, vous êtes sur un opt-out et pas sur un opt-in. Et donc ça ressort de la plainte, et c'est ce qu'on a analysé. Et ce sont les manquements robustes qu'on peut sortir. Alors après, il y a une autre question en dehors du ciblage publicitaire qui est l'analyse comportementale, mais qui regroupe, ce qui est dans votre plainte, mais qui regroupe tellement de services, tellement d'applications, tellement de concepts qui sont pas forcément non plus définis, que là, on est sur la question même du modèle économique qui est données versus services. Effectivement, ça, on l'a pas traité, et c'est quelque chose qu'on peut pas traiter en silo, et peut-être que la CNIL ne peut pas le traiter seule. C'est-à-dire qu'il faut rappeler aussi que la décision de sanction, elle porte sur les utilisateurs français. On a un périmètre qui est celui-là, ce qui explique aussi le montant.
Vous n'êtes pas tenu de faire ça non plus. Vous pouviez faire les utilisateurs européens, et vous avez choisi de vous réduire aux utilisateurs français. Sans doute c'était plus simple, je ne sais pas. Encore un point que la CNIL aurait pu être plus courageuse, et ça a arrêté au minimum.
Alors je pense que on a pris nos responsabilités, je pense qu'on fait preuve de courage. On est la première autorité à prendre une décision, il n'y en a pas une autre qui en a pris une de cette ampleur concernant un GAFA. Tous les ans, on a traité des questions des GAFA, puisque précédemment il y a eu Facebook, il y a eu Microsoft, il y a aussi eu Google par le passé. Donc en termes de courage, je pense qu'on est exemplaire vis-à-vis des autres autorités. Il n'y en a pas une qui a fait tous ces cheminements.
Justement, sur votre courage, je pense qu'il y a des points où vous avez été courageux par le passé, et je pense qu'il faut souligner, dernièrement, ces derniers mois, la CNIL a sanctionné des entreprises françaises, que ce soit Timo, FeedsUp, pas sanctionné ou mise en demeure ou Linky, sur la notion du consentement libre. Ça, c'était super important, on était super content de voir la CNIL faire ça. L'idée, c'est que si une entreprise veut vous surveiller ou collecter des données personnelles, elle doit demander votre consentement, et si ce consentement est une condition pour accéder à un service, par exemple pour accéder à Linky, pour accéder à Facebook, à ce moment-là, le consentement n'est pas valide, il n'est pas libre, il est forcé. Or, les données personnelles, les libertés fondamentales, ça ne se monnaie pas. Vous ne pouvez pas payer votre accès à Facebook avec vos données personnelles. Sur ça, le RGPD est très clair, la CNIL a été très courageuse et très claire. Sauf que, contre Google, encore une fois, ce débat-là n'est pas abordé.
Donc si demain... On comprend bien qu'il reste un chemin important à faire.
En fait, Google peut respecter la décision de façon très simple, sans que ça remette en cause son modèle économique. C'est qu'il rajoute une case « Acceptez-vous la publicité ciblée ?» et il conditionne l'accès à son service au fait qu'on coche la case. À ce moment-là, tout le monde sera forcé de soumettre la publicité ciblée. Google continuera de violer la loi. Et il faudra refaire une plainte devant la CNIL pour avancer.
Anne Melon, par rapport à cette question et aussi par rapport au fait qu'on a le sentiment qu'un consentement entièrement transparent semble peut-être un vœu pieux, dans la mesure où les entreprises elles-mêmes, elles ne savent pas forcément comment elles vont utiliser ces données.
Enfin, pour revenir, je pense qu'il n'y a pas qu'une question de courage. Il y a aussi les pouvoirs de la CNIL ont été... beaucoup étendu par ce RGPD et du coup par la loi République numérique qui est passée en 2016. Et donc je pense qu'on est au début de quelque chose de nouveau. Donc on observe, et là c'est vrai que c'est une première décision qui est rendue, qui va plutôt dans le sens, déjà un montant d'une amende qui est sans précédent sur la question des données personnelles, même si bien entendu les autorités de la concurrence européenne ont proposer des montants d'amende qui sont bien plus élevés en comparaison du chiffre d'affaires global de Google. Mais je pense qu'il est presque un peu tôt et que là, on est au début. Il y a sûrement des développements qui vont arriver de cette mise en application du RGPD. Notamment, il faut voir ce que les autres CNIL européennes vont faire, ce qui va se passer pour les plaintes qui sont déposées devant le CNIL irlandaise, donc où sont situés les sièges de Google, ou la plainte contre Amazon devant la CNIL luxembourgeoise. Donc je pense qu'on est au début, mais ce qui est intéressant pour une politiste en tout cas, c'est de voir comment le nouveau rôle que prend la CNIL grâce à ce RGPD et dans cet écosystème qui est en effet complexe, puisque la régulation des GAFA, c'est pas du tout que la CNIL, il y a beaucoup d'autres autorités de régulation qui sont impliquées, et donc on est en train de voir cet écosystème bouger, et c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui.
Vous parliez de l'Irlande, Anne Belon, assez important et intéressant en effet, parce que c'est une autre question qui se pose. Pourquoi est-ce que la CNIL s'est emparée de la plainte alors que le siège européen de Google ne se situe pas en France mais en Irlande, et le RGPD prévoit que c'est l'autorité de protection irlandaise qui devrait être saisie normalement, Mathias Moulin?
Ah, c'est ce qui explique aussi le périmètre de notre sanction, qui fait qu'on est sur un territoire et un périmètre français, c'est que effectivement le règlement européen prévoit un système dit de guichet unique, où en fait l'autorité de protection du pays dans lequel se situe l'établissement principal de la société qui est normalement seule compétente pour prendre des décisions et des sanctions, et en coopération avec les autres autorités. Il se trouve là que Google Irlande n'était pas jusqu'au 22 janvier l'établissement principal de Google, c'était encore Google LLC, parce que Google Irlande n'avait pas la capacité décisionnelle, n'avait pas le pouvoir de décision sur les traitements qui étaient mis en œuvre, notamment pour les ressortissants européens. Donc c'est ce qui a permis à la CNIL d'avoir une compétence unique et pas être dans un système de guichet unique, et ce qui va compter à partir du 22 janvier. C'est ce qui explique aussi qu'on a pris une décision qui n'avait pas une échelle européenne, mais qui avait une échelle aussi française. Il fallait pas emboliser aussi la possibilité pour l'autorité irlandaise à l'avenir de prendre des décisions à l'échelle européenne.
Je pense qu'il y a une question que se posent les personnes qui participent ou pourraient participer à nos actions, à nos plaintes collectives, c'est de savoir, c'est la question que je pose à Monsieur Moulin, savoir si nos plaintes qui ont déjà été engagées, donc en mai, donc bien avant que Google déménage et fuit en Irlande, si ces plaintes-là, est-ce que vous vous engagez à ce que la CNIL fasse de son mieux pour qu'elles continuent d'être traitées par la CNIL? Parce que si c'est pas le cas, on sait ce qui va se passer. Les plaintes vont partir en Irlande, c'est ce que veut Google, et l'autorité irlandaise, elle croule sous les plaintes, elle a des moyens humains bien moins importants que ceux de la CNIL.
Parce qu'elle a les sièges d'Apple, Facebook, notamment.
Elle a déjà nos plaintes à nous aussi. Et donc on sait très bien que la procédure va durer beaucoup plus longtemps si elle est en Irlande plutôt qu'en France. Donc est-ce que je sais que la question n'est pas simple d'un point de vue juridique et technique, mais au moins est-ce qu'on peut avoir un engagement de la CNIL comme quoi elle fera de son mieux pour que nos plaintes soient traitées ici dans les meilleures conditions?
Est-ce que la CNIL sera compétente pour traiter de ces questions?
On fera notre mieux pour appliquer le droit, on fait toujours notre mieux par essence. Là, effectivement, comme vous l'avez indiqué, on est sur des questions techniques, il y a une analyse juridique à conduire. Soit effectivement, on pourra... Il y a une question de perpétuation de la compétence. En fait, est-ce qu'on va pouvoir continuer à instruire ces plaintes en tant que seule autorité, ou est-ce qu'on va devoir les verser dans le champ de la coopération? Mais alors, de toute façon, on les suivra. Que ce soit en tant qu'autorité concernée ou en tant qu'autorité seule compétente.
Ça veut dire que le délai sera pas du tout le même.
Le délai sera peut-être pas le même, mais à un moment donné, on s'inscrit dans un cadre juridique qui est celui du droit. On est une autorité de régulation.
Est-ce que vous laissez fuir Google, ou est-ce que vous allez l'empêcher de fuir?
Ce que fait Google, ça lui appartient. Nous, de toute façon, on a notre compétence. Encore une fois, on l'exercera. On pèsera sur la décision, parce que c'est pas parce que Google parle en Irlande qu'on perd une capacité d'influence, parce que à partir du moment on est dans un système de guichet unique où l'autorité irlandaise de toute façon va devoir nous soumettre ses projets de décision, et de toute façon toutes les autorités de l'Union concernées vont influer sur la décision, et si la décision qui nous est proposée ne nous satisfait pas, on le dira et on fera part de nos motifs et on la fera changer. Donc de ce point de vue-là, et on a une capacité d'influence très importante.
Je sais très bien, c'est juste un terme de délai, c'est ça qui est inquiétant.
Arthur Messot, je voudrais qu'on avance un petit peu, on n'est pas non plus là pour faire le procès de la CNIL. Anne Belon, ça renvoie aussi à l'éternelle question de l'harmonisation des pays européens face aux GAFA, et c'est des questions qui se posent aussi pour la taxe GAFA sur laquelle la France a décidé d'avancer seule. Cette question de l'harmonisation, elle est centrale face aux géants du numérique?
Alors oui, elle est centrale pour le coup. Pour le RGPD, il y a une harmonisation, il y a une coopération qui sont mises en place.
Mais ce n'est pas une autorité de régulation qui supervise l'ensemble.
Alors si, en fait, il existait depuis 1995 un G29 qui était en fait le groupe des autorités de protection des données personnelles dans les différents pays européens, au sein duquel la CNIL jouait vraiment un rôle moteur en tant que plus ancienne autorité, et puis enfin, dont elle a eu la présidence pendant 4 ans et 2 ans à un autre moment. Donc en effet, cette coopération autour de la protection des données personnelles, elle existe. Elle a été renforcée par le RGPD qui crée une autorité européenne avec, comme on le rappelait à l'instant, voilà, une décision n'est pas prise par une autorité dans son coin, il y a des discussions. Donc là, en effet, on est plutôt sur la voie de l'harmonisation. Bien entendu, c'est pas le cas pour voilà, pour tous les domaines de la régulation des GAFA. On parlait il y a quelques mois de la taxation des géants du net, où là on a vu qu'il n'y a pas eu d'accord entre les différents pays européens et la France qui s'engagerait seule sur ce terrain. Donc ce qui n'est pas impossible, hein, ça a été fait par d'autres pays, notamment l'Inde, qui ont mis en place des taxes sur les GAFA, mais avec toujours cette perte d'efficacité à partir du moment où les GAFA peuvent du coup jouer sur la localisation de leurs différents services pour échapper à un certain nombre de taxations. Oui, ce qui d'ailleurs n'est pas que le cas du numérique, hein. C'est aussi des pratiques qui sont courantes dans les grandes firmes transnationales.
La fameuse course au moins-disant fiscale, mais alors la question qui se pose, c'est à qui appartiennent ces données collectées? Les collecteurs de données, est-ce qu'ils devraient par exemple partager les données qui relèvent de l'intérêt général? C'est une des pistes qui a pu être évoquée, Arthur Messot.
La réponse à ça, elle est claire. Google, Facebook, Microsoft, Amazon, ils collectent des données en violant la loi. Les données qu'ils collectent, il ne faut pas les partager, il faut qu'elles soient détruites. Et ça, pour ça, je pense que la CNIL sera d'accord avec moi. Si les données sont collectées illégalement, on ne va pas s'intéresser à savoir à qui profite le crime, est-ce qu'on les partage, est-ce qu'on partage le butin. Non, on les détruit. Et la question de l'impôt est le même. On veut taxer des revenus qui sont fondamentalement illicites. Google, le principal de son activité, c'est la publicité ciblée, qui se base sur un consentement illicite, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Donc pourquoi on voudrait taxer le produit d'un crime? Non.
Après, il y a aussi des données qui sont collectées légalement. Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là?
Il y a quand même des utilisateurs derrière qui utilisent des services. Donc,
cette question de la valeur des données.
Il faut quand même prendre en compte aussi les utilisateurs, les différentes finalités, parce que toutes les finalités ne sont pas à des fins de ciblage publicitaire. Il y a aussi les données qui sont utilisées licitement pour produire le service, pour améliorer le service, pour garantir la sécurité du service. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pour ça aussi qu'une sanction pécuniaire était adaptée dans le modèle.
Et alors, comment comprendre que les consommateurs ne récompensent pas les entreprises qui offrent une meilleure protection de la vie privée? Parce que ce qu'on constate, c'est que rares sont ceux qui n'utilisent plus Google ou qui ont quitté Facebook. Est-ce que finalement, les gens vont surestimer les avantages immédiats et sous-estimer les coûts à plus long terme de la récupération de leurs données?
Je pense qu'il ne faut pas mettre la responsabilité sur les gens, pas du tout. Les gens, genre nous, on a commencé à aller sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, parce qu'au début ça avait l'air des services pas trop mal et qui étaient moins agressifs qu'aujourd'hui.
Une erreur qui peut être instrumentalisée par les géants du numérique qui peuvent créer cela.
Partir de Facebook, partir de Twitter quand on a des amis, quand on a notre famille, quand on a nos collègues, pour plein de personnes, c'est pas possible. Les gens, s'ils restent sur Facebook, c'est pas parce qu'ils sont cons, hein, c'est parce qu'ils ont pas le choix. De plus en plus de personnes se rendent compte que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, la censure qui sont exercées sur cette plateforme-là ne leur vont pas, la violence qui est entretenue sur cette plateforme ne leur vont pas, la surveillance généralisée ne leur vont pas. Et s'ils restent, c'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce que ces structures-là sont organisées pour nous enfermer. Ça, c'est le combat à venir qu'il faut mener, c'est permettre aux personnes de quitter Facebook, de quitter Twitter, YouTube dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, partir de Facebook, c'est se couper de beaucoup de personnes. Ça, c'est le combat.
Est-ce que Mathias Moulin.
Le texte, le RGPD, crée notamment le droit à la portabilité, donc qui va faciliter la possibilité pour les personnes de récupérer les données et de passer sur un autre service. Donc ça, c'est un grand avantage. Ce texte-là, justement, il est configuré pour redonner du pouvoir aux gens. Donc c'est une vraie évolution. Il est sans comparaison de ce point de vue-là. Et surtout, ce qui change de manière fondamentale, c'est qu'on va avoir une capacité d'influence au-delà de nos frontières, parce qu'on est sur un critère de ciblage. On est compétent à partir du moment où, même si vous êtes à l'étranger, vous ciblez les utilisateurs européens. Et en fait, il y a un effet d'extraterritorialité. Et ce qu'on reprochait souvent aux Américains, c'est-à-dire qu'ils nous imposaient nos lois, leurs lois, maintenant on a la capacité effectivement d'influencer chez eux la façon dont ça fonctionne. Et donc c'est aussi ça qui change fondamentalement. Et maintenant les GAFA ou les entreprises qui sont à l'international et pas forcément sur notre territoire vont devoir nous écouter. Et c'est une grande avancée.
Sur la question des consommateurs, je vous propose d'écouter les règles de confidentialité expliquées dans une vidéo réalisée par Google.
Lorsque vous utilisez des services Google, nous recueillons différentes informations qui peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les informations que vous créez ou que vous nous fournissez et celles que nous recueillons via nos services. Voyons cela plus en détail. Concernant les informations que vous créez ou que vous nous fournissez, cela peut être le nom que vous indiquez lorsque vous créez un compte, une photo que vous avez importée dans Google Photos ou un message que vous envoyez via nos services. Quant aux informations que nous recueillons lorsque vous utilisez nos services, elles concernent les appareils, les applications et le navigateur que vous utilisez, ainsi que votre activité sur Google. Par exemple, les recherches effectuées, les annonces avec lesquelles vous interagissez, ainsi que les sites web consultés qui utilisent nos services. Il peut s'agir également d'informations sur votre position quand vous utilisez les services Google. Autrement dit, lorsque vous recherchez un café, nous pouvons nous appuyer sur vos termes de recherche et votre position pour vous aider à trouver le meilleur café à proximité.
Pour vous aider à trouver le meilleur café à proximité. À l'écoute de ce son, on se demande si on n'est pas en train d'assister à du privacy washing, l'équivalent du greenwashing, soit le fait de respecter seulement en apparence les bonnes pratiques.
C'est même pas du privacy washing, ils admettent ce qu'ils font. Hein. Ils admettent qu'ils surveillent tout le monde tout le temps, le moindre fait et geste que vous faites, la moindre position, ils vous surveillent. Ils le disent avec le sourire parce qu'ils sont complètement cyniques et qu'ils ont perdu pied complètement. Mais ils admettent la surveillance généralisée. Et d'ailleurs, dans les débats qu'on a autour des plaintes ou autour de la sanction, l'analyse est assez simple à faire parce qu'il suffit de lire les conditions de Google pour voir qu'ils admettent faire énormément de choses. Alors, il y a des choses qu'ils admettent pas qui sont probablement pires, hein. Ça, on va se marrer quand on va le découvrir. Mais déjà, ils se cachent pas, ils sont fiers de surveiller l'humanité au prétexte que l'humanité a besoin d'être surveillée parce qu'elle serait pas assez douée sans Google pour s'en sortir toute seule. C'est ça, hein, leur modèle de...
Ça pose en tout cas la question de la responsabilité des entreprises dont on parle depuis le début de cette émission. Est-ce qu'elles doivent être tenues responsables des conséquences négatives de l'utilisation des données de leurs utilisateurs? C'est aussi une question qui se pose, Mathias Moulin.
À partir du moment où elles ne respectent pas la réglementation, effectivement, elles en seront tenues comptables et il y aura des processus de mise en conformité. Alors après, qui doivent être adaptés à la nature des acteurs, à leur taille, à ce qu'ils font, à la gravité des manquements. Mais il est évident que ça change. Il est évident aussi qu'on n'a jamais autant parlé de la protection des données, que les entreprises et les utilisateurs sont de plus en plus conscients. Ce qui change aussi, c'est effectivement cette capacité à faire des plaintes collectives, au pénal, mais aussi devant la commission. On voit avec la quadrature du net que les gens s'emparent de leurs droits, et c'est indispensable. C'est-à-dire que la CNIL a ses pouvoirs, ses missions, mais les gens aussi doivent être acteurs de la protection de leurs données. Et c'est ce qui change avec le texte, et c'est aussi comme ça qu'ils forceront les entreprises, les administrations à respecter la réglementation. Par leur choix, par l'exercice de leurs droits.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Anne Belon, d'une illusion de contrôle de la part des consommateurs avec justement ces nouvelles règles qui apparaissent où désormais on doit cocher et dire bon, j'accepte l'utilisation de cookies sur cette page web? Est-ce que ça ne risque pas de créer cette illusion-là?
Alors, c'est pas une question d'illusion, c'est la question du consentement explicite qui est centrale dans le texte de la. Dans le texte du RGPD, c'est-à-dire à quel point le consentement est véritablement explicite, à quel point je suis au courant de tout ce qui est fait de mes données, de la manière dont elles vont être utilisées, du temps durant lequel elles vont être conservées, quand je coche cette case, est-ce que certaines cases ne sont pas précochées pour moi? Donc ça, c'est en effet le travail et des associations qui réunissent des plaintes et de la CNIL qui, justement, en refaisant ce parcours du consommateur, regarde à quel point il est véritablement en train d'exercer son consentement sur ce qui est fait de ces données. Donc, c'est des choses qui sont en train de bouger. Ce qui est sûr, c'est que depuis ce règlement, le consommateur a, voilà, plus de manières d'exercer ses droits qu'il n'en avait auparavant, mais il reste face à des géants dont la puissance de lobbying, la capacité à se déplacer, à peut-être aussi s'ajuster à la marge sans remettre en cause profondément ce qu'ils font de nos données et bien sûr sans commune mesure. Donc c'est clairement pas un combat qui s'arrête avec cette amende infligée à Google.
On va voir justement comment la pression monte à l'égard des GAFAM et à la réponse qui est apportée, notamment le travail des lobbying dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était Google In des Foxheads et nous poursuivons notre discussion sur la protection des données personnelles après l'amende record infligée à Google par la CNIL. Nous sommes avec Mathias Moulin, Anne Belon et Arthur Messot. Google qui a écopé, on l'a dit en juillet dernier, de la plus grosse amende jamais infligée en Europe dans une affaire d'abus de position dominante, 4,3 milliards d'euros. La pression monte contre le géant du numérique. Alors face à cette pression, les géants du numérique répondent en augmentant leurs dépenses en lobbying. 2018 aura été une année record selon les chiffres rapportés par l'agence Bloomberg. Quelle forme est-ce que le lobbying de Google en particulier prend, Arthur Messot, vous qui avez pu travailler sur ce sujet?
Alors les formes, c'est des formes de lobbying classiques. Hein. C'est énormément de rendez-vous avec les députés, beaucoup au Parlement européen. Au niveau français, ça va être, c'est pas que Google, on va dire Facebook aussi, ça va être des discussions, des échanges. Bon, ce qu'on a vu dernièrement, extrêmement alarmant et qui rend un petit peu, en fait, nos débats un peu vains, c'est une alliance stratégique, et même pas cachée, entre Google, Facebook, la Commission européenne, et les États membres de l'Union européenne, et en priorité la France et l'Allemagne, autour de la modération d'Internet. On a un règlement européen qui est extrêmement inquiétant, donc un règlement qui prétend lutter contre la propagation de contenus terroristes en ligne. Seulement, ce règlement, il a pour effet, et qui est assumé en plus, de déléguer la modération d'Internet, la censure d'Internet, aux outils de Google et Facebook. La Commission européenne, pendant 2 ans, a travaillé avec Google, Facebook, Twitter et Microsoft pour développer des outils de détection et de suppression automatisée des contenus terroristes en ligne. Et au bout de 2 ans, elle a dit « On est extrêmement satisfait du résultat. Bravo Google, bravo Facebook. Maintenant, il est temps que tous les acteurs, petits et moyens d'Internet, utilisent vos outils. » Le but, ça sera de détruire toutes les associations, tous les petits acteurs qui aujourd'hui font la richesse d'Internet en Europe. Ce sera l'effet. Et tous les acteurs qui vont survivre, qui sont assez moyens pour survivre, ils devront déléguer la censure à des entreprises multinationales énormes, étrangères au passage. Alors, ça fait que, en fait, sanctionner Google aujourd'hui, même si ça reste positif, c'est des symboles intéressants, à quoi bon si nos dirigeants cèdent Internet dans les mains de ces géants-là?
Est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures, Anne Belon, entre d'un côté la mesure dont parle Arthur Messot et de l'autre le fait de poursuivre Google avec cette amende record dont on a parlé?
Mais disons qu'il y a différentes politiques publiques qui croisent les GAFA et du coup des logiques de régulation qui sont différentes. Mais je pense que même en fait sur la question de la censure, il y a une tension entre la délégation aux acteurs privés puisque les États ne enfin, il est très difficile aujourd'hui pour un État contrôler les contenus comme ils pouvaient le faire avant dans des écosystèmes plus fermés, par exemple comme le Minitel. Donc il y a cette tentation de la délégation aux acteurs privés qui serait plus compétents dans le sens vraiment technique pour réaliser certains objectifs. Donc après, on peut aussi questionner ce type d'objectif. Et puis aussi la volonté de quand même garder un contrôle, de ne pas voir échapper toutes ces fonctions qui sont traditionnellement, la censure, c'est vraiment l'essence même de la fonction régalienne étatique. Donc une volonté quand même de garder la main là-dessus. Alors, par quoi ça va passer? On ne sait pas encore. Est-ce qu'on va vers le CSA qui va prendre de nouveaux pouvoirs? Je pense qu'on est dans une redéfinition aujourd'hui des compétences de ces autorités de régulation qui avaient largement, dans les années 90, accepté une espèce d'autorégulation de l'Internet avec un cadre juridique qui en fait s'est avéré très favorable à l'essor de ces grands géants qui ont une responsabilité juridique jusqu'alors très limitée.
Après, Anne, quand tu dis qu'il y a deux volontés qui s'opposent, en fait la volonté qui gagne aujourd'hui, celle de Macron, celle de la Commission européenne, c'est quand même la délégation des pouvoirs régaliens à des acteurs privés. Hein.
Je voudrais entendre Mathias Moulin sur ce sujet.
Elle est quand même plus légère, beaucoup, beaucoup plus légère.
Mathias Moulin. On s'écarte un peu strictement de la protection des données, mais alors il y a quand même, on reste dans un état de droit, il y a quand même le contrôle du juge qui va s'opérer, la capacité aussi pour les gens de contester la censure, comme vous l'indiquez, ou le retrait des contenus qui aura pu être demandé. Par exemple, la CNIL aussi intervient dans le cadre des blocages des sites pédopornographiques ou alors terroristes. Et là aussi, il y a un contrôle qui est effectué. Alors effectivement, alors là pour le blocage des sites, c'est quasiment concomitant, mais voilà, il reste quand même des contre-pouvoirs qui sont organisés. Alors il faut les développer à proportion, ça j'en conviens, mais on reste quand même dans un état de droit et c'est le début de l'articulation et on doit trouver un équilibre effectivement.
Je voudrais qu'on évoque la question du scandale Cambridge Analytica en particulier, qui avait peut-être permis une prise de conscience sur les risques de la collecte des données et de leurs utilisations. Je rappelle que c'est les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook qui avaient été utilisées par la société Cambridge Analytica pour influencer les intentions de vote en faveur d'hommes politiques qui avaient retenu les services de l'entreprise. Donc on le voit, les scandales et les failles de sécurité se multiplient. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui que l'administration américaine semble plus encline à réguler les GAFA? Anne Belon, et d'abord, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté plus forte aux États-Unis d'aller contre ces géants du numérique, et notamment sur la question de la politique antitrust?
Alors, il y a plein de choses dans votre question. Déjà, l'antitrust, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est vraiment l'outil privilégié, on va dire, pour attaquer ou influer sur ce type d'acteurs, donc c'est-à-dire la politique de la concurrence qui vise à démontrer qu'une entreprise abuse de sa position dominante sur un certain marché. Après, dans quelle mesure cette politique de la concurrence, elle peut servir d'instrument juridique pour ces questions de données personnelles, là, je pense que déjà, c'est un petit peu plus compliqué. Quant à la volonté politique du gouvernement américain, là aussi, on voit bien sûr que le scandale Cambridge Analytica a suscité une véritable émotion au sein du Congrès. Il y a eu, Mark Zuckerberg a été auditionné, il y a eu des expressions de parlementaires, notamment dans le camp démocrate, pour signifier leur opposition complète à ce qu'avait fait Google. Facebook, pour le moment, il n'y a pas non plus de grands projets qui visent à les empêcher de refaire ça. On leur demande en fait surtout de faire évoluer leur politique de vente de données. Il y a pas, c'est pas du tout très contraignant.
On est loin d'un RGPD à l'américaine.
On est très loin d'un RGPD. Il y a quand même alors là c'est plus au niveau des États. Il y a des lois qui sont passées. La Californie qui vient de passer le Consumer Protection Act qui reprend en fait certaines mesures de la RGPD. Donc, mais c'est des évolutions pas au niveau fédéral, c'est plus au niveau des
États. Après, les Américains sont aussi très pragmatiques. Alors, il se trouve aussi que les gens, la population, les utilisateurs, je pense qu'ils ont aussi eu connaissance du RGPD, et donc il y a une pression certainement sociale qui va s'exercer. Ensuite, c'est cette question d'extraterritorialité, comme je vous indiquais, c'est nouveau pour eux, et à un moment donné, ils vont faire le choix de ne plus subir, donc ils vont eux-mêmes prendre leurs propres textes qui seront adaptés à leur culture, à leur cadre sociétal, au modèle économique, techniques et à leurs acteurs pour pouvoir rééquilibrer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'avec le RGPD, c'est ce qui change la donne, c'est que la pression vient de l'Europe pour une fois et que ça les oblige pour l'instant à subir et ça va nécessiter une adaptation. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai bon espoir qu'effectivement ça influe. De toute façon, ça va se diffuser dans la culture d'entreprise des sociétés américaines. Et on le voit déjà. Alors, on est au tout début de la courbe d'apprentissage, mais il y a déjà des choses qui sont faites. Alors, pour certains, ça peut être que cosmétique, mais je pense que fondamentalement, ça va bouleverser en profondeur, au moins pour certaines sociétés. Et puis, on est qu'au début, donc il faut aussi se laisser un peu de temps, parce que ça ne fait que finalement 8 ou 9 mois. Donc,
Arthur Messos, sur l'influence du RGPD aux États-Unis et sur cette impression, peut-être que les choses avancent malgré tout aux États-Unis.
Je ne vais pas m'arrêter aux États-Unis parce que la question est mondiale à se poser. Hein. Vu que l'effet du RGPD est mondial. Comment les entreprises vont s'adapter? Il y a des entreprises qui peuvent s'adapter, hein, qui font des choses correctes, réglo, qui vont s'adapter sans souci, ça va prendre un peu de temps. Il y en a qui ne peuvent pas s'adapter. Google, Facebook, ne peuvent pas s'adapter. Leur modèle économique, c'est exploiter, surveiller les gens, exploiter les données personnelles. Le RGPD dit, vous pouvez faire ça que si les gens sont d'accord pour le faire, et que si ils peuvent refuser sans que ça ait aucune conséquence pour eux. Si je vous demande à vous, à n'importe qui, est-ce que vous acceptez que je vous surveille? Vous avez le droit de refuser. Si vous refusez, ça n'a aucune conséquence. Personne ne va accepter. Comment Google et Facebook peuvent survivre dans ces conditions? On ne sait pas. On ne voit pas comment ils peuvent s'adapter au RGPD et survivre. Donc, deux hypothèses. Ils changent entièrement de modèle économique. Ils changent d'activité. Ils vont faire autre chose. Ce qui est tout à fait possible. Première hypothèse. Maintenant, deuxième hypothèse. Ils continuent de violer la loi autant qu'ils peuvent, tant que ça ne remet pas en cause leur profit. La seule façon d'arrêter cette hypothèse-là, c'est de rendre des sanctions extrêmement élevées, extrêmement régulières. Donc aujourd'hui, la décision qu'a rendue la CNIL, et je ne voudrais pas être si négatif que ça, elle envoie un message symbolique qui est bon. On s'en félicite, c'est la preuve que d'agir collectivement, c'était intéressant, elle est bonne. Par contre, c'est que le début. Il faut vraiment continuer, c'est un très bon apéritif. Maintenant, il faut commencer l'entrée et le plat principal. Et en fait, si on se permet d'être aussi exigeant avec la CNIL, c'est qu'il faut rappeler que la CNIL, elle a été créée pour contrôler l'État. Et aujourd'hui, la CNIL est largement démissionnaire dans son contrôle de l'État et dans son contrôle de la surveillance qu'exerçait, de la reconnaissance faciale qu'on voit apparaître partout dans toutes les villes complètement délirantes. Et la CNIL est extrêmement attentiste. Et donc, si elle a démissionné ou largement démissionné, pas encore entièrement sur ces questions-là, on est d'autant plus exigeant en matière de contrôle des entreprises. Et nous, on lui dit, c'est un bon premier pas. Et mon Dieu, il faut vraiment continuer à être encore
plus
agressif.
Un bon premier pas et allons-y. Plus d'ambition à venir. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais vous poser une dernière question, Mathias Moulin. Est-ce qu'à force de se concentrer sur les GAFAM, on n'en oublie pas les autres entreprises qui exploitent les données personnelles? Et plus largement, peut-être nous dire quels seront, selon vous, les nouveaux fronts sur cette question des données personnelles qui devraient s'ouvrir dans les prochains mois?
Alors, on a effectivement beaucoup de choses à traiter. Alors, juste sur le secteur public, on contrôle comme le reste. On y dédie une partie importante. On a adopté des mises en demeure contre le fichage à des fins policières, le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. On a fait aussi des mises en demeure de la CNAMTS sur ces questions de sécurité. Donc, on démissionne pas du tout. On fait aussi des contrôles en matière de vidéoprotection. Il se trouve que le cadre juridique est un petit peu différent pour le secteur public. Le pouvoir de sanction ne s'applique pas à l'État, pécuniaire. Mais ça, c'est un choix du régulateur. Pour ce qui est de l'avenir, on va continuer effectivement sur la question de la personnalisation de la publicité, de la combinaison des données. On va continuer aussi à traiter tous les acteurs internationaux et nationaux sur tous les sujets, puisque la fonction de la CNIL, c'est qu'on est un régulateur sur tous les champs de la vie, que vous soyez consommateur, patient, client, sportif, et c'est ce qui fait notre challenge aussi.
Merci beaucoup à tous les trois, Mathias Moulin, Anne Velon et Arthur Messos. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On va continuer évidemment à suivre de près ces nouveaux défis.
Merci.
Il est 14h44 sur France Culture, l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Nous allons nous plonger aujourd'hui dans La Grande Évasion du prix Nobel d'économie Angus Deaton, un ouvrage paru en 2016 et qui retrace l'origine des inégalités dans le monde et le combat pour sortir de la pauvreté dans une grande fresque historique. Et pour nous accompagner dans ce voyage dans le temps, nous avons invité Nicolas Bouzou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur du cabinet d'analyse Asterès et directeur d'études à l'université Panthéon à Sas. À quoi fait référence le titre de l'ouvrage La Grande Évasion à Nicolas Bouzou?
Un film de 1963 qui traitait d'une évasion dans les camps de travail en Allemagne. Allemagne. Vous allez me dire quel est le lien avec l'économie. Ben, l'idée, c'est qu'au fond, à partir du milieu du 19e siècle, l'économie occidentale, en tout cas, elle a connu sa grande évasion, c'est-à-dire sa grande échappée. Elle a réussi à s'arracher à un certain nombre de déterminismes ou de quasi-déterminismes qui étaient la rareté des ressources naturelles, la mortalité infantile, des trappes à pauvreté, c'est-à-dire des personnes qui vraiment n'arrivaient pas du tout à s'émanciper, n'arrivaient pas à générer suffisamment de revenus pour vivre, ne serait-ce que normalement. Et ça, ce que je décris, c'était la réalité de l'économie et de la vie sociale, au fond, avant le 19e siècle, avant les effets de la première révolution industrielle. Et ce terme de grande évasion se réfère à ça. C'est-à-dire, c'est l'idée selon laquelle, au fond, l'Occident a largué ses amarres à partir du 19e siècle. Et d'ailleurs, Angus Deaton prend l'exemple de sa propre famille. Donc, c'est un Britannique. Alors, il a pris la nationalité américaine, mais au départ, entre guillemets, c'est un Britannique, exactement. Et il explique un peu l'histoire de sa famille et il compare avec sa propre histoire. Et il explique parfaitement que son arrière-grand-père vivait dans des conditions qui nous semblent aujourd'hui absolument épouvantables. C'est-à-dire que c'est les Misérables de Victor Hugo ou les Grandes Espérances de Dickens, si vous voulez. C'est Oliver Twist, si vous voulez. C'est de ce niveau-là. Et donc, Angus Deaton essaie de quantifier ça, vraiment de mesurer le changement à partir de cette grande évasion.
Sachant que dans cette grande évasion, il y a des gagnants et des perdants, comme dans le film, et il y a ceux qui sont encore prisonniers de la pauvreté et de la mauvaise santé.
C'est ça, c'est-à-dire que, au fond, c'est un livre à la fois sur la croissance économique et les effets de la croissance, mais c'est aussi un livre sur les inégalités. Angus Deaton rappelle bien que l'évolution économique et même la croissance économique provoquent des inégalités. On voit bien, à partir du milieu du 19e siècle, on a une explosion des inégalités, tout simplement parce que vous avez beaucoup de gens qui sortent de la pauvreté, mais vous avez aussi des gens qui restent dans ces trappes à pauvreté. En fait, Angus Deaton explique bien que la question des inégalités est souvent mal posé. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont dire, les inégalités, c'est pas grave, au fond, ça fait partie du processus capitaliste. Et puis vous avez des gens qui vont vous dire, au contraire, il faut systématiquement combattre les inégalités. Angus Deaton montre qu'il y a deux types d'égalités. Il y a des inégalités qui peuvent être positif, il est normal que des gens gagnent plus d'argent que d'autres, et à la limite ça peut même donner envie aux personnes les plus modestes de rattraper les personnes qui gagnent de l'argent, et ça peut leur donner un aiguillon, donc ça c'est positif. Puis ça peut être extrêmement négatif, parce que les personnes qui ont beaucoup de revenus, qui ont beaucoup de patrimoine, peuvent en quelque sorte vouloir verrouiller leurs revenus et leur patrimoine, trouver des rentes, exiger des rentes de la part des gouvernements, et là pour le coup ça bloque l'évolution économique et ça empêche les pauvres de devenir riches.
Alors Angus Deaton, pour le présenter en quelques mots, il est professeur à l'université de Princeton et il est particulièrement réputé pour ses travaux justement sur le bien-être des populations. Il a reçu le prix Nobel d'économie en 2015 pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être. Et pour lui, la croissance du revenu n'entraîne pas automatiquement une amélioration de la santé. C'est l'une des thèses de son livre. Comment est-ce qu'il en arrive à cette conclusion, Nicolas Bouzou ?
Je trouve que c'est vraiment l'un des passages les plus passionnants de l'œuvre d'Angus. Il y a cette controverse en réalité qui existe depuis les années 70 et qui consiste à se demander au fond, dans la progression de l'espérance de vie, qu'il a encore date, je schématise un peu, mais de 1850, c'est à partir du milieu du 19e siècle que l'espérance de vie explose, mais il y a cette controverse depuis les années 70. Est-ce que c'est la croissance économique, la prospérité qui permet l'augmentation de l'espérance de vie, ou est-ce que ce sont tout simplement les progrès de la médecine, les progrès de l'hygiène? Bon. Et Angus Deaton offre une réponse qu'il a encore, une réponse qui est, je crois, tout à fait juste et tout à fait équilibrée et qui n'est pas manichéenne. C'est-à-dire qu'il explique que tous ces facteurs jouent. Il faut de la croissance économique, bien évidemment, tout simplement parce que il faut des revenus pour pouvoir investir dans la santé. En même temps, il faut évidemment des innovations dans le domaine médical, mais il faut aussi que les politiques publiques se préoccupent de l'accès à tous de la santé. Et vous voyez, je trouve que c'est très moderne au fond cette idée-là, parce que là encore, elle n'est pas manichéenne. Nous, on est dans un pays où parfois on a un peu tendance à opposer les uns aux autres, on a tendance à opposer le public, le privé, les laboratoires pharmaceutiques, etc. Bon. Et en fait, Angus Deaton dit, non, ce qui a fonctionné dans l'histoire, c'est quand on avait tout cela à la fois. C'est-à-dire qu'il faut de l'innovation, c'est souvent des acteurs privés, mais il faut de l'État, il faut de la solidarité, il faut des politiques publiques, notamment pour que les plus modestes puissent accéder à la santé. Puis il faut de la croissance économique, évidemment, parce qu'on a besoin de ressources pour investir dans la santé.
Et il donne des exemples précis. Par exemple, il explique que l'espérance de vie s'est accrue dans environ 20 ans dans plusieurs pays, Bolivie, Honduras, Nicaragua, en l'absence de croissance économique importante.
Alors, là il y a encore, il faut distinguer plusieurs situations. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez des pays dans lesquels l'espérance de vie peut progresser, alors même qu'il n'y a pas énormément de croissance économique, tout simplement parce que vous avez des effets de contagion de l'espérance de vie. Vous avez, depuis quelques décennies maintenant, une convergence des espérances de vie dans le monde. Et ce que l'on voit, c'est que les pays les plus pauvres rattrapent les pays les plus riches en termes d'espérance de vie. Ce que montre aussi Angus Deaton, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup frappé les économistes, il a publié avec son épouse, parce qu'il travaille beaucoup avec son épouse, qui s'appelle Anne Case, il a publié il y a quelques années une étude qui portait cette fois sur la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. Vous savez, qui est l'espérance
de vie
diminue
aux États-Unis. Il est l'un des premiers à avoir alerté sur la crise des opiacés.
Les médias en, voilà, exactement. Alors, vous devancez ma démonstration. Les médias en parlent souvent à juste titre. Mais, vous savez, on a un peu cette idée que la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, c'est lié à l'obésité, au fait qu'ils mangent mal, à la sédentarité, etc. Et Angus Deaton et son épouse, Anne Case, ont voulu regarder ça de très près. Et, en réalité, pas du tout. Et ça, il faut bien que nos auditeurs comprennent ça parce que c'est très important quand on réfléchit aux économies développé. La totalité de la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis, elle vient de ce que Case et Deaton appellent assez joliment d'ailleurs les maladies du désespoir. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison, les overdoses liées aux drogues, les maladies du foie liées à l'alcoolisme qui peuvent dégénérer en cirrhose, en cancer du foie, etc. et les suicides. Et ça, en fait, ceux qui sont touchés par ces maladies du désespoir, ce sont... Alors pardonnez-moi, je schématise un peu, hein, mais les classes moyennes inférieures, vous savez, les classes moyennes qui sont menacées par la mondialisation, par l'innovation technologique.
Et
c'est moi le libéral, c'est moi le libéral qui vous dit ça. C'est évidemment un problème que nous, les libéraux, nous n'avons pas réglé. Ça fait un peu écho quand même au gilet jaune, si vous voulez. Il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire de malaise des classes moyennes, qui est quelque chose qu'il faut prendre vraiment très au sérieux, parce que Deaton nous montre que ça peut pousser les gens jusqu'au suicide.
Alors l'indicateur de l'espérance de vie permet toutefois à Angus Deaton de démontrer la montée des inégalités. Et pour cela, il revient aux chasseurs-cueilleurs du pré-néolithique.
Alors ça aussi, c'est quelque chose, c'est vraiment un passage qui est absolument extraordinaire. L'histoire humaine, c'est quand même une histoire de progrès. C'est-à-dire qu'il y a quand même, sur le très long terme, de moins en moins de pauvreté, on vit de plus en plus longtemps. Donc voilà, le progrès, c'est quand même quelque chose qui existe. Mais il y a des moments qui sont des moments vraiment de régression. Et il y a deux grands moments de régression. Alors il y en a un qui est assez récent, c'est le grand bond en avant de Mao, hein, 1958-1960, où en deux ans, l'espérance de vie à la naissance en Chine baisse de 20 ans. Vous m'avez bien entendu, en deux ans, elle baisse de 20 ans. Et une autre période de régression, c'est le passage du paléolithique au néolithique, l'invention de l'agriculture. Et oui, parce que au paléolithique, en fait, on vit pas si mal que ça. Alors, on est des chasseurs-cueilleurs et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on trottine 20-25 km par jour pour se nourrir. On va manger des baies, on mange des fruits, des légumes, un peu de viande de temps en temps quand on en trouve, un peu de poisson. Quand on trouve de la viande, c'est des très très gros animaux, c'est des mammouths. Et donc du coup, on les mange pas tout seul. Donc on a beaucoup de relations sociales, on partage. Et au fond, ça c'est un mode de vie qui a permis à l'homme d'avoir une espérance de vie, alors qui n'était pas colossale, mais qui était de l'ordre de 30 ans. C'est-à-dire la même espérance de vie qu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, en France, l'espérance de vie à la naissance, elle est pas supérieure à 30 ans. Et l'invention de l'agriculture, donc ce passage du néolithique au paléolithique, va aboutir à une baisse de l'espérance de vie. Et oui, parce que on devient agriculteur, c'est difficile, on est sédentaire, on se transmet aussi beaucoup plus facilement des maladies, on a un mode de vie qui est beaucoup plus pénible, et puis, surtout, on va commencer à moins bouger, à moins faire de sport.
Et alors, Angus Deaton, qui a contribué à l'élaboration des seuils de pauvreté à l'échelle mondiale, se montre assez critique dans cet ouvrage, Nicolas Bouzou, à l'égard de l'aide au développement. Pourquoi est-ce que cette aide ne peut pas fonctionner, selon lui?
Alors, je pense que c'est très excessif de dire qu'elle ne peut pas fonctionner, mais quand vous regardez la contribution, on va dire, de l'aide au développement à la diminution de la pauvreté, ce qu'on appelle la pauvreté extrême, donc les gens qui vivent avec moins de 1,90 $ par jour, cette pauvreté extrême, elle a énormément diminué ces dernières décennies et aujourd'hui elle touche moins de 10% de la population mondiale. Si on prend le point de départ des statistiques, l'année 1800, on est à 90%, donc on est passé de 90% à 10%.
Et dans les années 80, donc, peut-être 40% environ.
Exactement, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que ça continue de diminuer. Donc on a cette amélioration très claire qu'on mesure. Quand on regarde les facteurs qui ont expliqué cette amélioration, c'est quand même avant tout l'augmentation de la croissance économique et des revenus. Il y a une façon très simple de le voir, c'est que l'endroit du monde où la pauvreté extrême a le plus reculé, c'est l'Asie du Sud-Est, en particulier la Chine. On est passé de 80% à 10%, non pas en deux siècles, mais en 30 ans, depuis 1980. Donc une extraordinaire diminution de la grande pauvreté en Chine. Et ça, c'est vraiment lié au développement économique du pays, plus qu'à l'aide au développement, malgré tout utile.
Et pourquoi est-ce qu'Angus Deaton considère, lui, que l'aide au développement ne peut pas précisément aider à sortir de la pauvreté?
Parce qu'il voit les grandes masses, parce que c'est un statisticien, c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, et donc il regarde froidement ses statistiques, et il dit, ben voilà, depuis deux siècles, là où on a une baisse de la pauvreté, c'est là où on a du développement économique, c'est là où les entreprises ont pu investir, c'est là où les États ont pu se structurer pour faire émerger des débuts d'État-providence, etc. Et l'aide au développement, elle n'a pas véritablement contribué, ou en tout cas, si elle a contribué, ça ne se voit pas dans les statistiques.
C'est un statisticien, dites-vous, oui. Mais l'originalité de sa méthode, c'est précisément qu'il fait des allers-retours en permanence entre la théorie et les données empiriques. C'est en cela qu'il a apporté une contribution importante à l'économie.
Oui, c'est quelque chose qui est assez moderne. Alors, peut-être qu'on peut être un peu fier en France, parce que je pense, si vous voulez, que l'origine intellectuelle de cette méthode, elle est française, et c'est l'école historique des annales en France, Bloch, Braudel, etc. Donc là, on remonte à avant la guerre. Et cette idée, au fond, de mélanger l'histoire et les statistiques. Cette idée qui consiste à mesurer l'histoire. Et donc son idée, en effet, c'est de quantifier l'histoire, de mesurer l'histoire, d'arriver à essayer d'avoir une idée extrêmement précise de l'évolution des conditions sanitaires, des conditions sociales, des revenus, des inégalités, et sur des périodes qui sont des périodes longues. Ça aide à objectiver l'histoire. Alors je vais faire hurler les historiens, évidemment, parce que quand vous objectivez l'histoire, vous avez la possibilité de commettre des anachronismes, parce que vous allez comparer des statistiques d'aujourd'hui avec des statistiques d'hier, et donc les historiens, on va dire, les purs historiens vont hurler, mais je pense néanmoins qu'il y a quelque chose de très utile, ne serait-ce que parce que ça montre que, quand même sur le long terme, l'humanité, elle s'en sort pas si mal, il y a un vrai progrès humain.
Cet ouvrage, Nicolas Bouzou, c'est un plaidoyer pour la croissance économique, mais est-ce qu'il ne met pas un peu vite de côté les préoccupations environnementales qui sont très peu abordées?
Oui, et Deaton l'a regretté, d'ailleurs il l'a regretté ultérieurement. On ne va pas se mentir, dans les travaux de recherche américains, l'environnement est une préoccupation qui monte, mais qui reste quand même secondaire. Au fond, on peut raccrocher les wagons de la façon suivante. Tous les progrès génèrent de nouveaux problèmes.
Un dernier mot, peut-être, Nicolas Bouzou, pour donner envie à nos auditeurs de lire La Grande Évasion d'Angus Deaton. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le lire et qu'est-ce que vous en retenez?
C'est un formidable plaidoyer pour la confiance. L'humanité a toujours eu des grands problèmes, problèmes de santé publique, problèmes de peste, problèmes d'accès à des ressources naturelles, problèmes de trappe à pauvreté. Et finalement, l'ingéniosité humaine, l'innovation, mais au sens très, très général, pas seulement technologique, mais l'ingéniosité humaine a toujours permis de surmonter ces problèmes. Et c'est peut-être ça, vous évoquiez la question de l'environnement. Voilà, on peut peut-être se dire, l'environnement, on sous-estime sans doute l'ampleur du problème, mais quand on lit Angus Deaton, on se dit qu'on sous-estime aussi sans doute notre capacité à le résoudre.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou d'être passé dans nos studios aujourd'hui. La Grande Évasion, santé, richesse et origine des inégalités est parue aux presses universitaires de France. Je renvoie également les auditeurs à votre dernier livre, coécrit avec Julia de Funès, La comédie inhumaine, paru aux éditions de l'Observatoire l'an dernier. Merci infiniment. Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série consacrée à l'aventure des banques. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter nos 4 émissions sur l'économie de la drogue. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.